Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106. Au programme aujourd'hui, les interviews de Life, Louis Arlette, Agnès Guéraud et Editors.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Ils viennent d'Angleterre, ils aiment, comme tout Anglais qui se respecte, la pop, le rock, le punk et l'Europe. Ah non, pas forcément. Leur nom, c'est Life. À leur actif, un album, Popular Music, dernier EP sorti, Moral Fever, autrement dit, Fondements Moraux. Une partie des membres du groupe sont avec nous, deux membres ce soir. Bonsoir à tous les deux. Hello.
Bonsoir.
Hello.
D'où venez-vous en Angleterre et comment le groupe est-il né?
We're from Hull in England, which is in East Yorkshire.
In the Hull, qui est dans le Yorkshire, la partie est du Yorkshire, et ça a été fondé par Mez et Mick, qui sont frères, et par ce jeune homme et Lydia.
Autour de quelle idée le groupe s'est-il constitué?
I think for us, music is...
Avant tout, c'est la musique qui est importante. Bon, ils ont un sens aussi de la communauté du groupe de personnes dans la zone dans laquelle ils vivent. Et ils cherchaient à faire passer un message en s'amusant, un message qui soit facile à digérer, un message politique.
Et justement, dans quelle ambiance politique, finalement, à cette époque, autour de vous, lors de la création du groupe, est-ce que ça a une importance particulière?
Yeah, well, we write about everything that's happening around us, so...
Il y a évidemment une envie de parler de choses qui sont liées à l'actualité du Royaume-Uni, mais également du monde, une actualité qui est généralement assez sombre. Et donc ils cherchent à écrire à propos de comment on peut faire pour survivre à cela, en rendant ça, évidemment, abordable, digérable.
On écoute un extrait. Why are you not giving advice to the kids? No need to act like you're way too big. I got change when I get into the booth. You can approach at any of my gigs. We don't do no indirects. And we damn sure don't do digs. And whatever I say on record, I can back it like an ad-lib. I'm too grown for more. Un extrait de Too Grown Up, Life versus Chidu Oraka. Extrait d'un EP sorti l'an dernier avec cette version avec Chidu Oraka. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste? Pourquoi avoir voulu travailler avec lui? Comment vous l'avez rencontré? La place qu'il a chez vous en Angleterre peut-être?
Ok, so we work at a youth center, and at the youth center we provide...
Travaille dans le social, hein, travaille auprès de jeunes, et il se trouve que Chidu Oraka est quelqu'un qu'ils connaissent bien, c'est un ami. Alors dans ce centre dans lequel il travaille, il y a un studio qui est gratuit, et donc ils ont produit son premier disque, et l'idée c'était de pouvoir proposer quelque chose qui mettait en valeur la ville de Hull, qui est un endroit qui est vraiment bien noté sur la carte. Et donc plutôt que de lui donner un disque, ils ont préféré donner la face B de leur disque.
Nous sommes avec le groupe anglais Life dans Radio Lomax. Vous nous parlez des artistes justement qui vous sont proches en Angleterre et peut-être de ce que vous partagez avec eux comme vision du monde.
Well, yeah, we've obviously this is our last date with Idols and
Idols en particulier, c'est un groupe ils sont très proches d'eux depuis deux ans. Parler du disque qui est triste, qui est morne, hein, le terme qu'ils utilisent c'est beige, hein, c'est vraiment c'est morne. Il y a peu de personnes qui vont finalement dire les choses telles qu'elles sont. Alors il y a Alicia, il y a Idols qui sont vraiment deux artistes dont ils se sentent très proches pour ces raisons-là.
Et justement, qu'est-ce que représente cette tournée européenne avec Idols et qu'est-ce que vous partagez comme discussion, peut-être comme expérience?
Yeah, we've spent 2 weeks with them. We've hung out a lot before.
Ils les connaissent depuis longtemps, mais c'est deux semaines qui ont été particulièrement intenses. Hein. C'est un temps qui est très particulier en tournée. Et puis il y a aussi qu'ils partagent le même parcours. Hein. Ils font de la musique depuis longtemps. Avant d'être vraiment reconnus, ils avaient une carrière et donc ils ont appris beaucoup de ça. Ils ont pu partager ces expériences vécues. Et puis cette tournée, ça a été la possibilité aussi pour eux d'apprendre beaucoup les uns des autres et puis d'exprimer cette colère qu'ils partagent sur scène tous les soirs.
Alors, du coup, on se demande à quoi ça sert un groupe de rock en 2019. On a l'impression que vous avez envie de remettre du sens là-dedans, Idols aussi. On a l'impression que doit porter, selon vous, la musique populaire, vous qui avez sorti un album qui s'appelle Popular Music.
Avant
toute chose, la musique, c'est une façon de s'exprimer et puis c'est aussi une façon de sortir du quotidien, hein, de pouvoir être dans une dynamique qui est plus positive. Et le titre de leur premier album, Popular Music, c'est pas un jeu de mots sur le genre, mais c'est plutôt l'idée de rendre la musique populaire.
Accessible à tous. Le dernier morceau de cet album, c'est Euromillions. On imagine que ça parle de l'Europe, le Brexit, notre difficile séparation, même si rien n'est encore vraiment fait. Comment on vit ça quand on est en pleine tournée européenne?
I think the situation in England is very sad at the moment.
Évidemment, la situation en Angleterre est triste. Hein. C'est une décision qui est vraiment une catastrophe de leur point de vue. Et puis, étant donné que pour eux, la notion de communauté, c'est quelque chose de très important, le Brexit, en tant que décision qui va séparer les gens, c'est quelque chose de vraiment négatif. Les gens sont motivés par la peur, et donc à partir du moment où on crée des frontières, ça crée encore plus de peur. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà.
Quels sont ces fondements moraux dont vous parlez dans votre dernier EP?
It's a good question.
Erase the words. These the lyrics.
So I'll answer it.
C'est une question qui n'est pas forcément évidente. C'était plus ou moins une blague à la base, mais c'est une chanson qui était, une idée de chanson qui était là depuis longtemps. C'est essayer de réfléchir à la façon dont on se fait submerger, on se fait dépasser par notamment les réseaux sociaux qui sont une plaie de leur point de vue. Et donc l'idée, c'est de pouvoir regarder les choses un peu moins sérieusement et d'appréhender la vie pour ce qu'elle est.
Merci beaucoup. Juste, vous vous êtes promené un petit peu dans Rouen, j'ai cru comprendre, cet après-midi. Vous vous êtes baladé un petit peu. Quelle impression vous avez eue en vous baladant dans les rues de Rouen?
Oh, it was beautiful, beautiful, beautiful. The cathedral stunning.
Ils ont trouvé que Rouen, c'était une ville très jolie, et la façon dont les gens se mélangeaient et une ambiance très agréable avec du soleil. Ce qui est une chance. Et puis généralement, ils ont beaucoup aimé la France pour l'accueil des gens et puis également par rapport à la gastronomie, le fromage, le pain et le vin.
Ouais, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup. Life, donc, pour ouvrir sur Idols tout à l'heure. Merci beaucoup. Thank you very much.
Thank you.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt, donc, sur scène. Bonsoir Louis Arlette.
Bonsoir.
Vous êtes parisien, ingénieur du son, producteur, donc plutôt dans l'ombre de la production musicale depuis 2007 avec le duo R, mais aussi avec des artistes comme Cat Power ou Colin Greenwood de Radiohead. Et vous venez nous proposer votre deuxième album après Sourire Carnivore. Voici donc des ruines et des poèmes, disques littéraires soutenus par une musique électro inspirée de la mythologie grecque et de la lecture de l'Iliade d'Homère. Vous nous parlez de votre travail d'abord dans l'ombre de certains artistes. Comment ça commence pour vous et en quoi ça consiste exactement?
Je suis rentré dans cet univers parce que j'étais passionné par le son, d'une façon générale. Et je savais que je voulais réussir à créer quelque chose, à créer mon projet. Simplement, je sentais que je ne pouvais pas me lancer comme ça tout de suite. J'avais besoin de m'abreuver, j'avais besoin de faire des rencontres. Et je savais que mon travail de composition serait très lié au travail de la matière sonore, justement. Donc complètement autodidacte, je me suis lancé dans l'univers du studio. Moi, j'étais violoniste au départ. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des études, j'ai fait des rencontres. Et puis, j'ai fini par travailler pour des artistes, voilà, en studio surtout, pendant de belles années.
Comment quand vous parlez de matière sonore, vous parlez de quoi ? Puisqu'apparemment, c'est vraiment, vous aviez l'intuition que c'était là-dessus que vous alliez travailler. Pourquoi cette intuition-là, justement ?
En fait, c'est exactement comme... j'aime bien comparer ça à un travail de peintre. C'est-à-dire que la matière sonore, ça peut être comparé à de la peinture. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'analogies entre la musique et la lumière et la peinture. On parle de bruit blanc, on parle de lumière blanche, etc., etc. On parle de couleurs chaudes, on parle de sons chauds et tout le reste. Et donc, j'avais besoin de développer mes goûts, de faire des expériences. Et ça n'a pas loupé. Je me suis retrouvé à bonne école, puisque c'est vrai que, bah, notamment avec Air, dans leur studio pendant pratiquement 10 ans, on était dans un véritable laboratoire. Donc là, j'ai pu regrouper énormément de choses dont j'ai dû me débarrasser d'ailleurs après.
Donc on le disait, un travail en studio avec R, vous êtes resté 10 ans avec ce duo, c'est ça ?
Une dizaine d'années.
Comment est-ce que vous entrez dans cette équipe-là et comment est-ce que vous travaillez avec eux ?
C'était complètement par hasard. J'étais étudiant, justement. Je venais de m'offrir une année d'études de son. J'avais déjà monté mon studio, monté ma société, puis je commençais à enregistrer des groupes comme ça, à droite à gauche. Ça me plaisait, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Alors voilà, je suis parti à la SAE, à Aubervilliers.
La SAE, c'est la
Sound Audio Engineering, School of Audio Engineering, pardon, qui est à Aubervilliers, puis qui est une école anglaise à la base. Et au bout de 6 mois à ce rythme-là, R avait passé un casting dans cette école, puisque Nigel Godrich, leur producteur et ingénieur du son, qui a aussi beaucoup travaillé sur Radiohead, venait de cette école-là. Il leur avait conseillé d'aller voir dans ce coin-là, qui aurait certainement des petites affaires, entre guillemets,
Des gens à recruter.
Voilà, c'est ça.
Et donc, vous disiez qu'il a fallu vous débarrasser de certaines choses, c'est-à-dire ?
Oui, alors ça a été évidemment, on ne ressort pas indemne en fait d'autant d'années de collaboration avec un groupe, j'ai envie de dire, aussi profond, aussi puissant. Ils ont énormément de goût, ils ont accumulé énormément de choses, c'est des collectionneurs et puis ils étaient là bien avant moi. Donc j'ai effectivement appris beaucoup à leur contact, mais une fois que j'ai voulu lancer mon projet, je débordais un petit peu de tout ce bagage et sur le premier disque notamment, j'ai eu besoin de lâcher un petit peu toutes ces choses que j'avais apprises. Et j'avais une
sensation d'étouffement. Pour pas faire du R, quoi, en quelque sorte.
Alors du R, ça risquait pas trop parce que j'avais quand même une idée très arrêtée de ce que je voulais faire. Bon, il y avait des influences, mais c'était pas la même esthétique. Simplement, je parlerai plutôt des techniques justement de son, techniques d'enregistrement, techniques de mixage, ne pas utiliser leur même palette en fait. Voilà. Les modèles, ce que j'allais poser sur la toile, si je puis dire, ça risquait pas d'être la même chose. Mais les couleurs, ça, c'est personnel, il faut que ce soit personnel.
Alors on le disait en intro, c'est un disque littéraire référencé, Homère, l'Iliade, la mythologie grecque, Pessoa dans son intranquillité. Vous citez en interview les poètes maudits, Baudelaire, Rimbaud, mais aussi François Villon. Vous dites que pour ce deuxième disque, l'Iliade vous a beaucoup marqué. Vous nous expliquez pourquoi ?
C'est un livre que, oui, effectivement, j'ai relu et encore relu l'année dernière, qui me fascine. J'aime beaucoup la notion de transmission et la notion de transmission est très liée dans ce disque. Derrière une des poèmes, il y a une ambiance un petit peu apocalyptique, un petit peu de Rome avant le déclin. Je suis assez sensible à toute cette atmosphère, ouais, de fin du monde dans laquelle on baigne, je trouve, actuellement. On voit les jeunes qui se soulèvent pour le climat, on entend parler d'urgence absolue, on sait qu'il nous reste 12 ans avant de pouvoir changer la donne, etc. Enfin, toutes ces choses-là me troublent profondément. Et l'Iliade, quelque part, m'a rassuré un petit peu. Je trouvais ça très beau qu'il y ait cette transmission de plus de 2500 ans après qu'une œuvre pareille puisse encore inspirer des artistes modernes. Voilà.
Quel lien on peut faire justement entre musique pop et littérature ? Est-ce qu'il y a une finalité commune peut-être ?
Bien sûr. Tous les arts sont liés. Il y a dès le moment où on écrit des textes, on parle de littérature, la musique pop utilise la littérature. Et ce qui est génial justement dans la pop, c'est cette façon que ça a de regrouper tous les arts, en fait, les arts visuels, les arts sonores, les arts littéraires, les arts, bon, alors là, la peinture aussi, j'en parlais, mais c'est un art global, c'est un art total, la pop, voilà.
Agnès Guéraud et son livre Dialectique de la pop, donc qui est là ce soir, qu'on va avoir l'occasion d'écouter lors de sa conférence si on ne vient pas au concert, fait entrer la pop dans une réflexion philosophique. J'imagine que ça vous intéresse.
Ça me plairait certainement, oui. Ouais. Ça risque de me plaire.
Alors donc on le disait, une vision assez sombre qui parle de la fin de quelque chose, de chaos pour vous. C'est sûr, notre civilisation est bel et bien en train de s'effondrer. Et c'est aussi ce que vous racontez dans ce disque finalement.
Ouais, c'est empreint de cette atmosphère-là. Alors, les sujets restent des sujets assez personnels, assez égocentriques même, j'ai envie de dire, mais quand même imprégnés de ce côté voilà, universel et effectivement ouais, de apocalyptique. Simplement, je ne suis pas pessimiste, hein, y a quand même... une lueur d'espoir. Je pense qu'on peut changer les choses, que ce soit d'un point de vue... personnel ou d'un point de vue global au niveau de l'humanité. Je pense qu'on peut tout à fait y arriver, mais j'essaye de prendre conscience effectivement de cette urgence-là.
Et de relater peut-être l'ambiance du moment.
C'est ça.
Vous êtes allé chercher une chanson peu connue de Brel.
Et la sous-préfecture fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes.
Je suis un soir d'été. Pourquoi celle-là ?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais l'impression que je pouvais lui apporter quelque chose. C'est peut-être très prétentieux de dire ça d'un morceau de Brel, mais c'est un morceau qui pouvait avoir une autre lecture, je trouve, que celle que Brel proposait. Il avait sa vision, effectivement, d'un soir d'été qu'on peut définir comme la mort d'un printemps, et puis quelque chose de très... Là, on entend la rythmique qui est très lente, quelque chose un peu dans le glauquisme.
Dans le soir d'été, c'est l'automne qui arrive aussi, hein, donc on est dans la thématique de votre
complètement. C'est effectivement une vision qui m'a plu, justement, c'est ce côté... c'est un petit peu mortifère, mais ça me plaît, c'est certain. Et puis le morceau est construit comme une espèce de mantra, comme une répétition. Il y a une évolution, une montée en tension. Et ça se prête très très bien à la musique électronique. C'est vraiment dans... Alors j'ai un petit peu changé la structure quand même. Il y avait 6 refrains dans l'original. Bon, là, je les ai limités à 3 justement pour que ça soit plus pop comme structure. Mais ça s'y prêtait très bien. Et puis c'est un morceau qu'il n'a jamais interprété sur scène. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir lui donner un second souffle.
Alors justement, vous dites dans une interview donnée à l'UMA que la scène doit être un peu « sale », entre guillemets. Mmh. Vous nous expliquez votre vision de la représentation sur scène ?
Eh bien oui, c'est une explosion, effectivement. On peut comparer ça à... c'est très sensuel, c'est très orgasmique, c'est très sexuel. La scène, c'est effectivement... J'aime le contact avec le public, la communion. Il y a un côté trans aussi, en tout cas... c'est vraiment la libération de toutes ces années et de tous ces mois passés en studio, dans l'intimité, dans le côté un petit peu étanche de l'univers du studio. Et moi, j'ai vraiment besoin de me libérer. Quand je suis en studio, j'ai besoin de me projeter sur scène, de savoir que j'interpréterai les morceaux sur scène. Et c'est... Ça serait, le processus ne serait pas complet sans ça.
Donc voilà. Il va y avoir une sorte de délivrance ce soir sur la scène du 106.
J'espère bien. On ne sait jamais, avant de monter sur scène, ce que ça va donner, mais... Quand la magie est là, c'est une des plus belles choses au monde.
Merci Louis Arlette, on va vous laisser aller vous préparer pour ouvrir ce concert. Excellente soirée à vous.
Merci.
Merci d'être venu.
À vous aussi, merci.
Comme tu es rigide et si bien contrôlé, il n'y a pas une seule ride sur ton calme frigide, triste comme un rocher. Comme un passage à vide, comme un lac gelé que je dois traverser, là où se trouvaient les rapides, des amours envolés, maintenant retombés. Dans cette tristesse limpide, tout ce que je croyais. Tu es très acide, un fruit empoisonné. Au cœur d'une poupée timide, aux senteurs torrides que je dois oublier. Un climat de chaleur humide, aux étreintes passées et sûrement rêvées. À une vitesse terrible, aux amours envolés sans jamais retomber. Que je croyais solide, tout ce que tu croyais possible, devenu tristesse limpide, et cette tristesse, tout ce que je croyais solide, tout ce que l'on croyait possible.
Il sera là le 30 avril, John Spencer, avec un album qui vient de sortir, John Spencer Sing the Hits, avec ses hitmakers sur scène, considéré comme son premier album solo. On écoute Time to be Bad. We'll be right back.
good time to be bad. Keep it together. I got to keep it together. Sure enough, I got to get my shit together. Yeah! You watch it. Bad.
Time to be bad, c'est donc John Spencer en concert ici le 30 avril prochain.
Radio Le Max, l'émission du 106.
Et on accueille Agnès Guéraud. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
On vous connaît un peu ici au 106. Vous êtes d'abord venu en tant qu'artiste avec vos chansons. Vous menez depuis 10 ans le projet musical La Féline avec deux albums, Adieu l'enfance et Triomphe. Donc ça, c'est La Féline avec ce morceau Diamant, un morceau sorti il y a un an finalement.
Ouais, sur une compilation, ouais. Paris Tokyo Single Club, il y a une artiste japonaise d'un côté et puis moi de l'autre.
Est-ce qu'il y a un album en préparation, oui, des chansons
Oui, il est en train d'être fini et il y a un nouvel album qui arrive en octobre. Là.
Très bien, voilà. On en reparlera peut-être ici au 106, je l'espère. Vous étiez l'an dernier donc invité par Rodolphe Burger sur le Festival Roche, sur la presse qu'il relaie, pour évoquer avec nous le lien entre musique populaire et tranche chamanique. C'était juste avant la sortie de votre livre. Vous êtes normalienne, agrégée, docteur en philosophie, professeur d'esthétique à la Villa Arson. Alors j'ai cru comprendre que vous n'y étiez plus. Toujours.
Ouais.
Qui est l'École nationale supérieure d'art de Nice. Vous écrivez dans Libération sur la musique et vous venez donc de faire publier un ouvrage philosophique consacré à l'esthétique des musiques populaires enregistrées, Dialectique de la pop, aux éditions La Philharmonie. La découverte, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, puisque vous allez donner une conférence dans le club. Votre blog moderne, c'est déjà vu, est toujours actif, même si vous n'y écrivez, j'ai l'impression que vous n'y écrivez plus beaucoup ces derniers mois.
Non, là j'ai eu un bébé, ah. J'ai fini un livre.
Et c'est ça, voilà. Vous avez été un peu occupé ces derniers temps.
C'est ça, mais il est là.
On peut peut-être commencer par se mettre d'accord sur la définition de la pop.
Alors ça va être compliqué. Non, je plaisante.
Mais oui, ça doit
en
l'être.
Effet. Bah, en tout cas, moi, dans tout le travail que j'ai fait dans ce livre, c'est d'arriver à parler de pop au sens de musique populaire enregistrée. Donc, c'est-à-dire pas simplement au sens du genre pop qu'on oppose au rock, en disant ah, c'est pop parce que c'est mélodique, ou parce qu'il y a des refrains, ou parce que c'est plus accrocheur, mais vraiment au sens de la musique populaire, comme les Anglais disent, la popular music. Et pour moi, de ce point de vue-là, ça comprend des genres très divers. Je peux parler dans le bouquin de reggae, de grunge, de blues et même de jazz, parce qu'il y a toute une partie du jazz qui est liée à l'enregistrement, à la technique du studio, contrairement à ce qu'on associe parfois au jazz immédiatement, se disant le jazz c'est forcément de l'improvisation. Non, il y a aussi toute une histoire du jazz qui est une histoire du studio. Donc voilà, quand je parle de pop en ce sens-là, je dis que c'est une forme par opposition au genre, le genre pop à l'intérieur de la forme pop. Et moi, voilà, tout le travail, c'est de se dire, bah, alors qu'est-ce que c'est que cette forme pop ? Et surtout, pour reformuler la question, comment l'enregistrement a transformé la manière de faire de la musique populaire. La musique populaire, il y en a toujours.
Et de l'écouter,
eu.
Forcément. Aussi.
Voilà, et de l'écouter. Mmh. Mais c'est plutôt, disons que le livre est plutôt sur le fait, sur la manière de faire. Et voilà. Donc, bien sûr qu'il y a la chanson est beaucoup plus ancienne que la pop. Hein, la musique populaire est beaucoup plus ancienne que la pop. Les folklores sont plus anciens que la pop. Mais voilà, la pop, c'est cette musique populaire enregistrée. Et ça produit une manière totalement nouvelle en fait d'appréhender la sonorité, l'expression artistique, et c'est sur ça que je me suis penchée.
Est-ce qu'il y a une bonne pop et une mauvaise pop selon vous?
Forcément, il y a des points de vue esthétiques, encore heureux, je pense que c'est très important. Il y a une figure dans mon livre qui compte, c'est le critique, le critique rock, c'est celui qui justement va dire c'est authentique, ça c'est de la merde, et il va argumenter autour de ça, et c'est ça qui m'autorise en un sens à dire la pop, c'est pas simplement des divertissements, des objets comme ça, juste les chansons faites pour passer un moment au supermarché, quoi. Même si on peut passer un très bon moment au supermarché en écoutant un morceau pop, mais c'est aussi un ensemble d'œuvres musicales. Ce sont vraiment des œuvres musicales. Alors quand je dis œuvres, ça veut pas dire que c'est toutes des chefs-d'œuvre. C'est comme les tableaux, il y a des croûtes et puis il y a des. Mais ça, c'est vrai que ça relève de l'évaluation esthétique, des critiques en fonction des points de vue, en fonction bien sûr des goûts. Et je dis ça parce que réfléchir sur l'esthétique de la pop, pour moi, ça n'a pas consisté à produire une espèce de tribunal esthétique en disant oui, alors ça c'est bien, ça c'est nul. Bien sûr que mes goûts, ils transparaissent un petit peu dans le livre, et que je peux me permettre à un moment de dire Stevie Wonder c'est un génie, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont me contredire, et je ne vais pas le dire de M. Pokora, mais peut-être que c'est injuste, mais en tout cas, dans le livre, je veux pas. J'ai vraiment essayé de pas être dans le jugement, et de plutôt réfléchir aux conditions du jugement. Comment on juge les œuvres pop, c'est ça qui m'a intéressé, plutôt que de faire le fait Adorno d'ailleurs, avec qui je discute dans le livre, de produire comme ça un tribunal esthétique où il disait Schoenberg c'est bien, Stravinsky c'est de la merde. Mmh. Non, c'est pas mon but en tout cas. Mais par contre, oui, je pense qu'il y a. Il y a des musiques plus riches que d'autres, de toute évidence.
D'ailleurs, vous dites que c'est une forme artistique qui se construit dans l'hostilité, dans la création méprisée, indigne de toute approche esthétique. Quelle était votre ambition, finalement, pour écrire ce livre-là?
C'est presque une nécessité. À un moment donné, c'était une nécessité presque existentielle, parce que j'avais travaillé sur cet auteur qui est une pensée...
On parle d'Adorno.
Voilà, Adorno, qui est une, un très, très grand intellectuel du XXe siècle, et qui a cette intelligence, elle est fascinante, en fait, quand on le lit. Or, il a écrit des choses sur la musique populaire, et en même temps, c'était cet art musical, en l'occurrence, toutes ces musiques populaires, ces œuvres de musique populaire. Pour moi, elle comptait énormément, elle compte évidemment toujours comme des œuvres, et donc il fallait un petit peu réconcilier dans mon esprit à la fois comment se fait-il que, on dirait presque avec Adorno que si on est intelligent, on peut pas aimer la pop, quoi, en fait. Et peut-être que l'ambition c'était ça, c'est-à-dire peut-être que en fait c'est une musique qui est parfaitement intelligente, ça ne veut pas dire qu'il faut l'intellectualiser, et ce n'est pas non plus mon but dans le livre. Ça veut simplement dire qu'on peut, si on pose des questions en termes conceptuels, la musique populaire peut nous apporter énormément d'éléments d'analyse et d'éléments intellectuels qui sont passionnants pour réfléchir à ce qu'est devenu la musique au XXe siècle et à travers cette médiation de l'enregistrement.
Alors effectivement, la dialectique de la pop, c'est une réponse à Adorno, on le disait, philosophe sur lequel vous avez travaillé, écrit une thèse, la critique de la subjectivité de ses figures chez Adorno, soutenue en 2010 à la Sorbonne. Adorno qui a écrit avec son comparse Max Horkheimer, c'est bien ça, dans les années 40, Dialectique de la raison, donc l'écho avec le titre de votre livre, il est là. On a vu ce que disait Adorno, ce que pourrait dire Adorno de la pop. En fait, Adorno, si j'ai bien compris, voulait sauver les Lumières, et vous voulez sauver la pop, quoi, en quelque sorte.
En réalité, ce qui est assez amusant, c'est que je retrouve une part de la promesse des Lumières dans la musique populaire. Parce que les Lumières, c'est quoi pour Adorno? C'est la promesse de l'universel, mais d'un universel qui ne soit pas autoritaire. C'est-à-dire qu'on puisse se comprendre, que les humains puissent se comprendre, mais sans que ça soit en fonction du plus petit dénominateur commun, mais au contraire, se comprendre de façon accomplie, comme des individus autonomes et tous intelligent, c'est l'idéal de Kant et tout ça. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur les Lumières, mais il y a cette idée d'émancipation, de subjectivité autonome et d'universel. Or, moi, je retrouve ça dans une certaine promesse de la musique populaire qui est l'idée de, dans le tube en fait, le vrai tube, celui qu'on aime quand on est amateur de pop, ce qu'on retrouve et ce qui nous ravit, c'est cette chose qui est très difficile à obtenir en art, c'est l'évidence qui est alliée à l'exigence. C'est quand on se rend compte que ce tube, il est hyper facile à écouter, mais en fait, il est très difficile à produire, il est très difficile à faire. Et là, on se met à parler de génie, on se dit, ah ouais, bah Michael Jackson, il y a un truc là, c'est un génie. Enfin, tout à coup, sa façon d'interpréter ces mélodies, ces rythmes, c'est génial et c'est hyper, tout le monde est emporté, tout le monde est séduit et pourtant l'exigence artistique elle est évidemment là, c'est pas de la soupe, loin de là, c'est quelque chose d'inouï, d'inédit. Et il me semble que voilà, dans le tube je dis qu'il y a une espèce, il y a ce que j'appelle l'utopie de la popularité, c'est-à-dire l'utopie au sens où ça serait cet idéal comme ça esthétique où on réconcilierait dans une forme d'universel, l'évidence et l'exigence artistique. Et je crois que la pop, elle porte cette promesse. Alors, elle la trahit souvent, parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on nous présente comme des tubes et comme des hits, et qui sont juste des choses qu'on matraque, et qu'on trouve nulles, et qu'on a raison de trouver nulles. Mais voilà, tout l'intérêt, c'est pour ça que le livre s'appelle Dialectique, hein, parce que la dialectique, c'est le jeu des contradictions, c'est de rapporter cet idéal, cette utopie, aussi à sa part, à sa trahison permanente. Et se demander, voilà, est-ce que c'est pas ça toute l'histoire de la pop, cette manière qu'elle a de lutter contre le fait que la promesse d'universel qu'elle porte en elle, elle est tout le temps trahie bah, par le mainstream, par les succès fabriqués, industriels, mais que sans cesse, il y a l'espoir qu'on arrive à reconduire, à retrouver une musique que tout le monde comprendrait et qui pourtant serait une grande et belle musique.
Et qui peut-être ne ferait pas de concessions. Alors Adorno, il dénonce quand même le totalitarisme que porteraient les produits de l'industrie culturelle. Donc la musique pop, c'est aussi, il s'insère dans une industrie culturelle. Il dit que en effaçant le travail patient de l'artisan, de l'artisanat finalement, c'est le systématisme face au fragment. Voilà, c'est ce qu'il dit lui. Le fragment, donc c'est le travail de l'artisan qui, pièce après pièce, construit sa chaussure, par exemple. Et le systématisme, c'est la machine qui reproduit la même chaussure tout le temps. Oui. Est-ce que la reproductibilité, elle dégrade pas quand même la musique, quelque part?
Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a plein de questions en une. Hein, mais en fait, il y a un texte qui est assez connu de Walter Benjamin sur la photographie et qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique ». Et en fait, quand Adorno, il s'est penché sur ce qui se passait à la radio, dans les radios étudiantes des années 40, parce qu'il s'est dit « moi, je vais faire la même chose en réfléchissant à ce qui se passe avec la musique ». Qu'est-ce que ça fait à la musique d'être reproductible ? Et pour Adorno, en effet, il y a ce phénomène de stéréotype, ce phénomène de standardisation en fait, de la musique. On ne se met plus à produire une œuvre absolument singulière, mais une œuvre qui peut être répétée. Mais en même temps, on peut très bien lui objecter. Alors, de ce point de vue-là, il est quand même passionnant, parce que je pense que même si on est amoureux de pop, on porte en soi un petit Adorno qui critique l'industrie culturelle, et c'est très important de critiquer l'industrie culturelle. Elle est toujours aussi dominante, hein, je veux dire, les suggestions YouTube, hein, bon, parfois par miracle, on nous propose un truc chouette, mais bon, tout est quand même tourné vers l'exigence de la popularité, le nombre de vues, donc on est complètement dans ce système, et il faut continuer de le critiquer pour continuer à faire que la musique soit quelque chose finalement de libre de ça, de spontané, hein. Il y a une espèce de valeur à apporter à la spontanéité quand on fait de la pop. Bon, là, je brasse beaucoup de choses, mais peu importe. Mais il y a aussi cette chose qu'on peut objecter à Adorno sur la reproductibilité, qui est que l'enregistrement, c'est aussi la manière, la technique qui a été la plus puissante pour fixer la musique en tant qu'événement. Donc, c'est en un sens, bien sûr que c'est reproductible, mais c'est reproductible à l'identique. Ce qui est reproduit, c'est un événement. C'est-à-dire, si j'écoute un vieux morceau de Son House, je vais l'écouter là en 2019. Il est enregistré en 1927. Et je l'écoute en 2019. C'est la même voix, c'est le même grain. Et tout à coup, j'ai l'intensité de cette personne, cette incarnation, cette interprétation. Et ça, il n'y a que la phonographie qui le permet. Donc, la phonographie, c'est aussi une technique qui préserve absolument la singularité de la musique. Parce que là, ce n'est pas les notes, ce n'est pas la partition.
C'est une interprétation.
Voilà, cette interprétation et l'événement, ce moment-là, ce mixage. Et donc là, c'est précisément, Adorno, ce n'est pas quelque chose qui discute, hein, parce qu'il ne veut pas voir cet aspect-là. Mais voilà, ça a permis une individualisation absolue de la musique orale. L'oralité, c'est génial, mais c'est lié à un moment. Or, avant l'enregistrement, chaque moment était perdu. Et avec la musique populaire enregistrée, il y a tout à coup la possibilité de fixer un moment. Et vous pouvez rentrer chez vous ce soir et vous passer un petit Elvis qui va continuer de vous susurrer à l'oreille avec la même chaleur qu'il y a 50 ans. Quoi.
Peut-être une dernière question. avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on l'a abordé un petit peu quand on parlait des programmations YouTube. On se dirige peut-être vers une autre forme encore de la pop. Dans 21 leçons pour le 21e siècle, le pop philosophe Harari écrit « Si l'art se définit par des émotions humaines, que pourrait-il advenir le jour où des algorithmes extérieurs seront capables de comprendre et de manipuler des émotions humaines mieux que Shakespeare ou Beyoncé ?» Avec le big data, la machine pourrait vous proposer une musique au diapason de votre humeur du moment. Que pensez-vous de cette théorie qui amènerait la pop au bout d'une forme de processus industriel quelque part?
On est un peu déjà là-dedans. Dans les suggestions, les algorithmes très très précisément paramétrés pour que la playlist enchaîne sur des morceaux qui vont vous plaire. Par exemple, Spotify développe ça très bien. Après, que ça soit une intelligence artificielle qui produise la musique, ça c'est très intéressant parce que la pop a toujours joué sur la possibilité de transformer la voix humaine en voix de robot. Enfin, c'est quelque chose qui arrive très tôt en fait. Alors via bien sûr les textures de la téléphonie, mais très vite avec les vocodeurs bien sûr. Enfin, et voilà, si on écoute des morceaux de Rihanna, enfin la compression, tout le travail qui est fait sur les voix, mais pas forcément même un morceau de la Féline quoi. Il y a un travail qu'on peut qui est déjà l'intercession de la machine sur la voix humaine. Je pense cependant qu'on ne peut pas imaginer succomber en fait à la musique d'une intelligence artificielle. On peut imaginer succomber à la musique d'une intelligence artificielle que si cette intelligence, à un moment, elle s'incarne comme individu. Et je pense toujours à la scène dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où Hall est en train de mourir. Et il se met d'ailleurs à chanter une chanson avec une voix qui est de plus en plus ralentie, d'ailleurs de moins en moins humaine, qui ressemble de moins en moins à une voix humaine. Et il chante Daisy, Daisy, je sais pas quoi, qui est une des premières chansons enregistrées d'ailleurs dans l'histoire de l'enregistrement. Donc Kubrick sait très bien ce qu'il fait. Et ce qui est génial, c'est qu'à la toute fin, il dit où est-ce qu'il est né, alors qu'il a été créé dans le Minnesota, je ne sais plus en quelle année. Et en fait, c'est là qu'il est émouvant. Et je me dis que c'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être être fan de Hall. C'est le moment où il devient une finitude. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une surpuissance de calcul, ce n'est pas une intelligence qui n'est que calcul, mais à un moment donné, comme finitude, son champ éventuellement peut nous toucher. Et je crois que la pop, elle est tellement marquée et tellement déterminée par ce besoin d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui vous chante quelque chose, que, voilà, à mon avis, on pourra être fan d'ordinateur, pourvu que ces ordinateurs soient des individus.
On attend ça avec impatience. Agnès Guéraud, ce soir au 106, pour nous présenter son livre Dialectique de la pop. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à ces quelques questions.
Merci.
On va écouter We Hate You, Please Die.
Thank you.
Melancholic Rain, We At You Please Die, extrait de l'album Kids Are Lofi le 30 avril pour ouvrir le concert de John Spencer.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Nous sommes avec Ed et Elliot de Editors. Bonsoir messieurs, bienvenue,
welcome. Bonsoir, thank
you.
Les Anglais de Birmingham qui changent plusieurs fois de nom avant de signer pour Editors en 2004, premier album en 2005, The Backroom. Le groupe rencontre immédiatement un succès populaire après la sortie de leur deuxième album. Ils assurent notamment la première partie de REM, un de leurs groupes fétiches. Crush, REM, c'était un des titres que vous avez souvent joué. Que représente ce groupe pour vous encore aujourd'hui, peut-être?
I think the epitome of what a band should be.
Ils disent que c'est vraiment le band exemplaire. Ils étaient cool, toutes les chansons marchaient, ils étaient intéressants, ils avaient toujours un petit élément de surprise qui fait que c'était vraiment le groupe, le modèle sur plein de facettes différentes, qui fait que c'est leur groupe fétiche.
Sixième album sorti l'an dernier, Violent, suivi par The Blank Mass Sessions, sorti en édition limitée à l'occasion du Record Store Day le 13 avril dernier, avec une sortie publique prévue pour le 3 mai via Pias, votre label présenté comme une version alternative à ce sixième album. Vous nous expliquez la raison de ces deux sorties
I think we initially wanted to do something for Record Store Day.
And ils ont fait, c'est à l'occasion de cette Record Store Day, c'est ça, qu'ils ont décidé de travailler avec Blank Mass. Ils avaient été très intéressés de savoir, c'est une occasion spéciale de faire quelque chose de différent, donc ils ont saisi l'opportunité.
So you really took advantage of that opportunity to work with this... to see what he would do with your album.
Yeah, well he worked on the album, so it's slightly complicated because we sort of made the record ourselves.
Ils ont construit leur album, ils ont envoyé à Blank Mass par la suite pour voir comment il allait retravailler. Ensuite, ils l'ont repris et puis ils ont encore, le quatrième étape, retravaillé avec un autre pour peaufiner et finir l'album.
Alors c'est ça qui est effectivement très intéressant, c'est que là, cette deuxième sortie, finalement, c'est une étape de travail qui finalement devient en soi un objet qui tient debout tout seul, quoi, finalement.
Yeah, I think it just showed a side of what we were doing in the process.
C'était vraiment ces trois étapes qui montrent une progression, qui sont chacun différents, mais on voit l'évolution, on voit le lien entre chacun. Il parlait spécifiquement du chanson Barricades,
qui est un inédit, ouais, sur cette deuxième sortie.
Qui était un inédit, qui était, you said, similar to the Blank Mass.
So I think that song was supposed to be on the record, and it was on the record.
Cette chanson, il était censé être sur l'album.
Until the last minute, and we thought. It doesn't quite sit with the other songs.
Puis la dernière minute, ça colle pas trop avec l'ensemble des autres chansons.
So to give it its own special place, we sort of created a record of Blank Mass things with it.
Ah, donc ils ont créé vraiment, ils ont créé l'espace pour où mettre cette chanson Barricades qui ressemblait au travail de Blank Mass.
Et donc, on parle de cette étape que vous avez eue, notamment avec Blank Mass. Blank Mass qui est un des membres de Fuck Button. Donc, extrait de The Red Wings. Pourquoi avoir voulu travailler avec John Power, aka Blank Mass? Qu'est-ce qui vous a attiré vers lui?
I mean, originally Fuck Buttons. They've got, when we sort of first came out as a band, as an electronic group, they were kind of in our world. You know, there's that crossover.
Il y avait cet amalgame des mondes, des styles avec Fuck Button qui fait que il y avait un regroupement et un recroisement. Mm.
And then just when we were recording the record, we were listening to.
Donc ils ont allé carrément banco. Ils aimaient beaucoup cet artiste et ce qu'il faisait et c'était à se commencer à similaire à ce qu'il faisait et comme ça basta. Bah on va voir si ça marche. And it did.
Yeah, and he said yes.
Et puis finalement il a dit oui. La grande surprise, big surprise.
Yeah, it was exciting. It was exciting when he said yes.
Et puis c'était un moment extrêmement palpitant de cette nouveau échange qui allait se prendre place, ouais.
Peut-être vous nous parlez du travail, de la place de John Power en Angleterre.
Probably more as Fuck Buttons, I think.
Yeah. Plus dans la forme de son groupe Fuck Buttons. Fuck Buttons is a group.
Yeah, it was two guys.
D'accord, donc c'est plus dans la place avec ce duo de Fuck Buttons.
Et vous avez toujours navigué d'ailleurs hein, entre pop, rock et musique électronique. Ces deux sorties, finalement, elles sont assez symboliques de ce que vous êtes et de cette schizophrénie musicale du groupe un peu, non?
So he's saying your style's always been either electro or pop, and finally these two different editions go back to this duality of being a bit schizophrenic back and forth.
Yeah.
Oui, tout à fait.
Chameleons.
Tout à fait. Les caméléons qui changent. You wouldn't be Gemini by him.
D'ailleurs, vous avez l'habitude d'intégrer le travail d'autres artistes, enfin, comme souvent les artistes. Hein, dans le vôtre, il y a cet artiste hollandais qui travaille sur les visuels. Le clip de Issim pour Barricade, ce sont des points de vue d'artistes, forcément, à chaque fois qui alimentent votre univers. Ce clip de Barricade, à Issim, on dit ceci. Je pensais à la mécanique naturelle de la musique, des schémas sonores en boucle. Ça m'a amené à penser à ces machines incroyables, débordant de petits processus. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué à traduire. On peut résumer. Hein, de petits processus qui effectuent des fonctions répétitives, ce sont malgré tout ces imperfections qui créent une dimension humaine et chaleureuse. Ça va aller, il est là. Ouais. Est-ce que ça dit quelque chose de leur musique aussi, du coup?
So the video.
Did you guys? Yeah.
Barricades. Yeah.
You guys are great.
A little bit, a tiny bit.
C'est ça.
So yeah, Barricades the video.
Yeah.
That's as much as I can get. I think the way they saw it, we sort of wanted to get somebody to get something really
abstract. C'est l'idée
de
faire en sorte que les machines, ils font finalement, ils peuvent faire des bruits humains, de organiques, maybe organic, human.
Yeah, exactly. Some frailty, some
fragilité humaine aussi, mentalness. Peut-être l'imperfection.
Imperfections is where you don't get from machines. So when they break down, you see this. More of a human nature and the chaos that sort of ensues from it.
Bah, et puis le chaos finalement qui n'est pas forcément informatique, réglementé, parfait.
C'est ça, parce que Barricade, c'est ça, hein, ce sont des machines qui fonctionnent avec des images à la perfection, au millimètre près, et puis il suffit d'un tout petit grain de sable pour que ça ne fonctionne plus, et c'est ça le côté humain finalement de ces machines. Et sur scène finalement, comment cette double interprétation de vos morceaux va-t-elle s'exprimer? Est-ce qu'elle s'exprime d'ailleurs?
We kind of continue to work at that. I mean,
il continue à travailler dessus.
Yeah, I mean, when we invited Elliot and Justin to join the band, we felt like rather than just being
ils ont avec les l'ajout des nouveaux membres qu'ils allaient prendre des évolutions, des changements, toujours suivre mais plus dans un style. When you say in a club,
I like it more of an electronic club kind of that.
Ambiance plus ambiance, plus club électronique.
Less extroverted. Mates, you get elements of you know, punch your hand in the air, lose yourself in a rock moment, but more kind of inclusive with your mates, dancing kind of in a in that
like less punk, aggressive. Donc
exactly.
Moins de revendications et plus dans l'environnement douillet où on est ensemble, on est enveloppé par la musique électro qui peut justement nous caresser
if you can intertwine the two, that's what we're aiming for.
Donc ils cherchent à vraiment réunir ces deux mondes.
Et bien justement, dernière question concernant vos futures compositions. Du coup, cette aventure, elle va vous emmener dans une direction particulière, a priori, pour la suite.
I don't know. We're just doing what we do, I guess.
Ils savent pas trop, mais ils vont continuer à travailler comme ça. Et forcément, ils travaillent dans le plaisir, ce qui leur plaît. Ils vont continuer à travailler dans cette direction-là.
On va creuser le sillon. Merci Ed et Elliot, The Editor, donc sur la scène du 106 dans quelques instants. Merci beaucoup.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine au 106, les concerts commencent demain avec le groupe John Spencer and the Hitmaker. Ils seront ouverts par notre très cher groupe local We Hate You Please Die. Jeudi 2 mai, concert de Papouze. Et enfin, samedi 4, Cobaladé. À la semaine prochaine.
How long could you wait for someone you love? Just looking for the tunnels of light coming down from above. I was waiting by the phone, the moment you called, the moment you came. Secrets and lies, your barricades. When it gets dark, there's truth in this.
tunnels of light emitted from you. I was waiting by the phone, the moment you called, the moment you caved. Where would I be without your secrets and lies, your barricades? Don't run away, don't run away. Before, do we play the fool? Serenade me while I sleep. We'll build the walls and keep us out of sight. My memories play tricks again. The madness you love, the tunnels of light. Don't run away, don't run away, don't run away, don't run away. Just barricade. Tunnels of light coming down from above.